à tous. En ce beau jour d'automne, qui fait que beaucoup d'entre nous doivent être malades, avec toutes les maladies du froid, nous allons nous promener sur l'eau. Oui, comme quoi, la météo ne correspond pas toujours au programme prévu par nos anciens. Donc aujourd'hui, je continue l'étude de l'évangile de Jean. Et nous étions, il y a 15 jours, arrivés avec Daniel, qui s'était occupé de la multiplication des pains. Et là, nous nous attaquons, donc nous sommes au chapitre 6, nous nous attaquons au ce qui est intitulé dans toutes les Bibles, quand ils font leur petite tête de chapitre, « Jésus marche sur les eaux ». Alors, j'ai déjà eu droit aux noces de Cana. Donc là, je ne referai pas les blagues mauvaises que j'avais fait à l'époque sur tout ce qu'on dit sur ces miracles-là, Mais c'est encore quelque chose qui n'est pas simple à décrypter, parce que, tout comme la multiplication des pains, ce sont vraiment des miracles extrêmement connus, qui font partie de la culture de base des gens de l'Occident, en gros, même ceux qui ne sont pas du tout chrétiens. Et ce sont des moments de la vie de Jésus, même s'ils ne partagent absolument pas notre foi, ou qu'ils ne connaissent même, pour ainsi dire, rien du tout au christianisme, on sait que Jésus a marché sur l'eau, parce qu'il y a toujours des caricatures qui fonctionnent, enfin, plein de choses. Hier, j'étais chez un kinésithérapeute, et il y avait quelques caricatures sur le mur, et une où on voyait Jésus qui marchait sur l'eau, tandis que l'autre dans la piscine du kiné était en train de souffrir. Enfin voilà, vous voyez qu'il est vraiment partout présent, même si on n'est pas du tout concerné spirituellement par cette action-là. Et donc ça nous pose un problème à nous, parce que déjà face aux non-croyants, on se sent en situation un peu délicate, parce que ce n'est pas simple à expliquer, c'est particulier. Et puis surtout, si on réfléchit bien, nous les croyants, on se demande, mais il sert à quoi ce miracle ? À quoi il sert ? Parce que si on nous donnait le pouvoir, normalement, que nous avons, de réaliser des miracles au nom de Dieu, si vous aviez de la foi comme le grain de moutarde, vous pourriez soulever, eh bien, on serait peut-être d'accord, allez, je te donne un miracle. T'as le droit. Peut-être qu'il dirait, eh ben, j'aimerais bien apaiser les éléments, quand il y a des tempêtes, des tremblements de terre, calmer tout le monde, ça sauvera des vies. Ou bien, pourquoi pas changer l'eau en vin ? Bon, pas pour que les gens boivent, mais pour faire plaisir à des gens que je recevrai, donner du plaisir aux gens et changer du pâté en foie gras. Non mais, c'est des choses qui peuvent être utiles, qui peuvent rendre service. La pêche miraculeuse, la multiplication des pains, on serait peut-être ravis de dire, bah, écoutez, resto du cœur, on a du mal à récupérer, je fais tac et il y a de la nourriture pour tous les malheureux. Guérir des aveugles, des infirmes, des possédés, des femmes qui souffrent. Mais attendez, on a tous dans nos familles des gens, si j'avais ce miracle-là, mais tiens, je te guéris. Et on serait vraiment heureux de pouvoir redonner la santé aux gens que l'on aime, évidemment en priorité, parce que c'est ceux qui nous touchent le plus, mais d'avoir ce pouvoir pour tous les autres. Et évidemment, je ne parle pas du plus grand des miracles, ressusciter les morts, tous les gens qu'on a aimés, qui sont proches, qui sont partis. On dit, bah écoute, reviens, ça serait merveilleux, mais marcher sur l'eau. Qui dirait, ah ben moi je veux marcher sur l'eau, à part si on est maître sauveteur, peut-être. Mais bon, personne dirait ça. Et pourtant, c'est un miracle qui est parmi les plus connus et qui n'a en soi aucune utilité. Aucune utilité. Donc on n'est même pas dans le miracle, on est dans le tour de magie. On est dans le tour de passe-passe, le truc un peu surréaliste qui... Et en plus, il est relaté plus d'une fois. Donc, il a son importance. Mais si on est conscient de ce qu'on dit et de ce qu'on lit, on se rend compte qu'il n'a aucun intérêt pour les autres. Mais s'il y est, c'est forcément qu'il y a un intérêt. Donc c'est le but, ça a été le but de ma prédication et toute ma quête, toute ma recherche, c'est quel message utile Dieu nous apporte avec ce miracle inutile. Alors, vous avez remarqué que je parle depuis quelques minutes, et que je n'ai pas commencé par lire une seule ligne du texte. Alors que d'habitude, on commence par les textes pour mettre tous ces auditeurs déjà dans le contexte général de ce que l'on va raconter. Pourquoi je ne vous le lis pas? Parce qu'il est plus compliqué que ça à lire, parce qu'il est dans plusieurs endroits. Donc j'aimerais déjà vous expliquer comment ce qu'on va fonctionner pour que quand je vous le lise, vous puissiez vraiment l'écouter parfaitement. Et puis surtout, parce que même si j'avais rien dit, vous ne m'auriez pas dit, attends Luc, tu n'as pas lu le texte, donc on ne sait pas de quoi tu parles. Parce que vous savez de quoi je parle avec ce fameux miracle. Vous croyez savoir, nous croyons, je croyais savoir de quoi je parlais. Ce qui est peut-être, on va se rendre compte un peu plus loin que ce n'est peut-être pas forcément le cas. Donc, dans un premier temps, pour répondre à des demandes tout à fait sérieuses, sachant de quoi on parle, et Maître José fait que la lumière fut, et là nous avons ma fameuse carte qu'on a déjà utilisée pour la Samaritaine, la noce de Cana, donc on continue, parce que nous sommes quand même dans une étude. Donc là, Jésus passe son temps pendant ces 3 ans à tourner dans tous les sens, il fait des centaines de kilomètres, et là, il remonte dans la mer de Galilée, au-dessus. Donc, Daniel nous avait dit la dernière fois que sans doute cette multiplication des pains se passait là, près de Bethsaïdée, à droite. Et il y a un moment où, quand ils vont remonter dans la barque et qu'il va donc avoir ce miracle de Jésus qui marche sur l'eau, c'est pour aller sur l'autre rive, là où vous voyez Capharnaüm et Génézareth. Voilà, donc il y a une traversée qui n'est pas la traversée totale du lac, mais il faut quand même, à part si on fait du cabotage, qui ne sera pas le cas parce qu'ils vont vraiment prendre la mer, il y a quand même une traversée intéressante à faire entre Bethsaïdée, Capharnaüm, Génézareth. Voilà, merci, c'est super. Voilà, donc ça, c'est pour vous mettre dans le contexte historique la réalité de la chose. Ce miracle qui a eu lieu, c'est dans un endroit précis, sur un lac précis, et ce n'est pas une pure invention de l'esprit. Merci, José. Pour aborder ce miracle, il faut, je crois, considérer une chose importante, essentielle, c'est le miracle d'avant. La multiplication des pains, il faut en parler une nouvelle fois, parce que c'est le seul miracle, comme Daniel nous l'avait dit, qui est dans les 4 évangiles. C'est le seul. Donc s'il est dans les 4, c'est qu'il a vraiment une importance considérable. Daniel nous en a parlé la semaine dernière, là, il y a 15 jours. Et je lui avais demandé ce matin, il l'a envoyé par texto, là, parce que c'était une question piège, parce que je ne voulais pas répondre à sa place, s'il y avait une phrase importante à donner sur son message, quelle serait-elle? Il m'en a envoyé 2. Je vous lis que la seconde, la première sera pour plus tard, mais elle est très intéressante. C'est la multiplication des 5 pains et 2 poissons ouvre les yeux à la foule, les yeux de la foule à une dimension du monde qui dépasse la réalité visible. Donc, c'est absolument ça. Et c'est dit 4 fois, de 4 façons, qui paraissent identiques, mais qui ne le sont pas tant que ça. Car vous allez voir que c'est le contexte, donc le miracle précédent, qui va peut-être nous donner la clé de ce miracle inutile. Et j'en ai pour preuve dans Marc 6, 51-52. Alors j'ai demandé gentiment à José de ne pas à chaque fois tapoter pour nous l'envoyer, parce que d'abord il aurait mal aux mains très rapidement, et surtout ça risquerait de vous déconcentrer par rapport à ce que je veux essayer de vous montrer. Donc dans Marc 6, 51-52, à la fin du miracle de la marche sur l'eau, les disciples furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Donc là, il est dit de façon très très nette que ce fameux miracle de Jésus qui marche sur l'eau n'est compréhensible que parce qu'on a compris celui d'avant. Donc penchons-nous sur celui d'avant. Ne vous inquiétez pas, je ne vais absolument pas refaire la prédication de Daniel qui était tout à fait complète, mais je vais essayer, comme tout texte, de l'aborder sous un autre angle qui est celui de comment ce miracle conduit au second. Et l'explique. Alors, puisqu'il est dit dans les quatre évangiles, on va s'attaquer aux quatre évangiles. Prenons le premier, Luc. Dans Luc, donc c'est dans Luc 9, 10, 17, les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent, Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu, il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les s'asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils firent tous s'asseoir. Jésus prit les 5 pains et 2 poissons et levant les yeux au ciel, il les bénit. Puis il les rompit, les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. J'ai redit ce texte en entier, je ne dirai pas tous les autres, simplement pour remettre dans le contexte que ce texte de Luc est la base de la multiplication des pains. Que voyons-nous dans ce texte-là ? C'est qu'il est simplement informatif, comme souvent Luc fait. On voit que Jésus accueille les gens, il leur parle du royaume de Dieu, une information. Et il guérit ceux qui en ont besoin. Il montre aux disciples leurs limites, tout ça Daniel l'avait expliqué, et puis il donne les ordres pour que les choses se fassent. Ça s'arrête là. Attaquons-nous à Marc 6,32. Marc 6,32, donc nous avons la même explication de la multiplication des pains. Je ne répondrai pas, je vous dirai juste les petites différences. Dans Marc 6,32, il est dit au début que Jésus est ému de compassion pour la foule, qu'il sent qu'ils sont comme des brebis sans berger. Et à ce moment-là, il leur enseigne beaucoup de choses. Et par rapport aux disciples, il va être plus proche d'eux et leur donner plus de détails sur ce qu'ils doivent faire. Donc là, ce qui va un peu être différent, Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger ». Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir, etc. Donc on voit que Jésus, là, il y a en fait 3 versets de plus où Jésus s'inclut plus dans la mise en place du miracle de la multiplication des pains. Et précédemment, il s'est plus inclus aussi dans son rapport avec la foule, en étant ému de compassion pour elle, en considérant qu'ils étaient comme des brebis sans berger, et en leur enseignant beaucoup de choses, qui est un terme plus fort que il leur parlait du royaume de Dieu. Donc on a les mêmes infos que dans Luc, mais il y a des détails humains, des détails qui rendent ce passage plus humain, plus proche de nous. Continuons. Allons dans Matthieu. Matthieu 14, 15, 21. Alors vous allez dire, attendez, on parle, il me refait tout. Mais je vous promets, c'est vraiment lié, c'est parce qu'on va comprendre ça qu'on a des chances d'avoir la clé du miracle inutile. Dans Matthieu 14, 15-21, nous avons exactement la même reprise que Marc. La compassion, les guérisons, des détails qui sont donnés aux disciples de mise en place. Il y a une chose qui est différente, c'est à la fin de ce petit passage. Ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc là, on inclut les familles dans cette grande journée, dans les miracles. Donc je parlais que Marc mettait déjà plus d'humanité dans sa relation de ce miracle. Là, Matthieu en met encore un peu plus, puisque d'un groupe d'hommes anonymes, il inclut les femmes et les enfants. Si aujourd'hui je demande à toutes les femmes, déjà les enfants sont partis, que les femmes s'en aillent, eh bien, l'église paraîtra beaucoup plus vide, et on aura l'impression ma prédication ou tout ce qu'on pourrait faire s'adresserait à des gens choisis qui eux-mêmes devraient peut-être, s'ils le veulent, s'ils ont les moyens, redire aux femmes qui eux-mêmes rediraient aux enfants ce qui s'est passé. Alors qu'en incluant les hommes et les enfants, les femmes et les enfants dans le comptage, on donne une vision très, très terrestre, très, très charnelle, très réelle de l'événement, de cette multiplication des pains. Et enfin, nous arrivons à Jean, où là, On oublie un peu la foule. Il n'est pas dit qu'il y ait de la compassion ni de l'enseignement, des guérisons, ce qui est aussi une forme de compassion. Et grosse surprise, très grosse surprise, qui peut même poser un doute, c'est que toute la narration du miracle même est totalement différente que dans les trois autres évangiles. C'est Jésus qui prend les choses en main. C'est lui qui s'inquiète de la foule. Alors qu'avant, c'était les autres qui disaient, qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est lui qui dit, mais dis donc, ces pauvres gens-là, comment est-ce qu'on va les nourrir? C'est lui qui, évidemment, donne les ordres, comme les autres, faites ceci, faites cela, mais c'est lui qui distribue. Et enfin, c'est lui qui ordonne de ramasser les restes. Ce qui n'était pas indiqué, même qui était un peu vu d'une autre façon dans les trois premiers évangiles. Et ça m'a vraiment interpellé parce que on a vu que dans ces quatre évangiles qui relatent le même événement, et c'est, je dis, le seul miracle qui est relaté quatre fois, ce n'est pas fait de la même façon. C'est le même événement, mais à chaque fois, il y a quelque chose en plus. Luc, il n'est que informatif. Marc commence à donner de l'humanité dans les rapports entre les gens. Matthieu inclut toute la famille pour que tout le monde se sente concerné. Et Jean, c'est carrément Jésus qui prend une part beaucoup plus importante dans la mise en place du miracle. Donc il y a forcément une raison à ces évolutions dans la description de cette multiplication des pains. Et comme on nous dit dans Marc 6, donc le miracle de Jésus qui marche sur l'eau est expliqué par celui de la multiplication des pains, il est bon maintenant de revenir à la façon dont est décrit ce miracle de Jésus qui marche sur l'eau dans chacun des évangiles, puisque si la manière dont ont été évoquées la multiplication des pains est différente, forcément la manière dont le miracle de Jésus qui marche sur l'eau va être évoqué devrait être différente. Puisqu'on sait qu'il y a une logique dans la Bible, que ce n'est pas fait n'importe comment, que même si ça paraît parfois contradictoire, ça ne l'est pas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé des choses tout à fait passionnantes. À ma grande surprise, comme à chaque fois. C'est absolument extraordinaire. Revenons à Luc, qui est un autre premier, informatif. Luc, donc, multiplication des pains, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient, et la suite, un jour que Jésus priait à l'écart, c'est terminé. Luc ne parle pas de Jésus qui marche sur l'eau. N'en parle pas. Sur les quatre évangiles, il y en a trois qui parlent de ce miracle, Jésus n'en parle pas. Et c'est justement cet évangéliste qui donnait que des informations très nettes, précises, mais de base, qui ne va pas plus loin dans le deuxième miracle. Allons à Marc. Alors là, on va commencer à lire. Parce que là, je vous avais dit, on va prendre au fur et à mesure pour comprendre. Et là, vous comprenez mieux ma démarche. Donc Marc. Donc ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes. Aussitôt après, donc c'est Marc 6, verset 45. Je remercie celui qui a laissé un Kleenex. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car, et on l'a déjà dit, ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Là, première apparition du miracle. Et vous allez voir qu'on parle du miracle de Jésus qui marche sur l'eau, mais c'est faux. Il n'y a pas un miracle, il y a quatre miracles. C'est comme les poupées russes, un miracle peut en cacher un autre, comme dans les noces de Cana. Là, il y a deux miracles. Jésus marche sur l'eau et la tempête s'arrête, le vent cesse. Matthieu. Toujours le même épisode. Donc Matthieu, on avait vu qu'il avait relaté la multiplication des pains avec plus de précision, plus d'humanité, et qu'il avait introduit la notion de la famille, donc qui concernait chacun d'entre nous. Donc Matthieu 14, verset 21, « Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. » Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». On est parti de Luc qui ne dit rien, on était à Marc. Marc s'est arrêté là, et Matthieu rajoute un troisième miracle. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, la saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Troisième miracle, et on a tendance ou à penser à l'un ou à penser à l'autre, mais à ne pas voir qu'ils sont amalgamés et qu'ils se succèdent. Cette fois-ci, Pierre sort de la barque et marche sur l'eau. Bon, ce n'est pas un miracle qui dure très longtemps, mais enfin quand même s'il n'a fait que deux pas, c'est quand même, nous on ne fait pas un pas, hein. C'est quand même magnifique. Voilà, trois miracles. On était censé parler d'un miracle, on en a déjà trois. Et il y en a un quatrième, celui qu'on ne voit jamais et que j'ai découvert dans Jean. Justement, Jean, celui où Jésus prenait les choses en main dans la multiplication des pains, forcément, il va ajouter une pierre supplémentaire. Allons-y. Jean, chapitre 6, verset 16. « Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé pendant environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Là, on est dans Marc. Il va sauter l'épisode de Pierre et il va arriver au quatrième miracle. Il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Alors, j'ai bien regardé les différentes traductions. C'est un miracle, c'est-à-dire qu'il y a une transportation. Alors, on en parle très peu, parce que c'est... Alors, il y en a qui ont dit, oui, mais c'était au bord de la barque. D'ailleurs, Jésus ne marchait pas sur l'eau, il était sur la grève, parce qu'il y avait des cailloux, etc. Mais non. Et il y a deux, trois commentateurs qui, en effet, disent, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du surnaturel, mais bon. Et ça passe à l'as. Mais textuellement, c'est vraiment la barque aborda. Aussitôt, la barque aborda, il y a quelque chose qui est de l'ordre du... j'ai été là et piouf, j'arrive là. Quatrième miracle. Quatre pour le prix d'un. C'est intéressant. Alors, pourquoi cet emballement? Pourquoi ces cadeaux successifs? Et si, du coup, ces miracles qui nous ont semblé inutiles sur le moment historique, parce que je dis d'abord, personne ne les voit à part les disciples, ça n'aide personne, ça ne soutient personne, au contraire, ça fait peur même aux gens qui le subissent. Si ces miracles inutiles étaient en fait fondamentalement utiles pour l'ensemble des humains qui vivent après ces événements, c'est-à-dire pour nous. On peut considérer que tous les autres miracles ont été utiles sur le moment, pour les gens qui les ont reçus, qui en ont profité, et nous, ça nous fait du bien de se dire que ces gens-là ont profité de ça et se dire que peut-être si on avait la foi on pourrait faire ça, mais si ce miracle inutile était peut-être celui qui pour nous serait le plus utile, si ces quatre miracles successifs en fait étaient la clé, l'exemple, la marche à suivre dans notre croissance dans la foi, et que ce n'était pas un miracle d'ordre physique comme sont tous les autres, mais que c'était le miracle spirituel par excellence pour nous aider et nous guider vers l'épanouissement de la foi. Alors, reprenons ces quatre miracles-là sous cet angle-là. D'abord, souvenons-nous, je voulais dire qu'on est en pleine nuit. Les trois textes le disent. La multiplication des pains, c'était dans la... Tout le discours, c'était dans la journée, la multiplication des pains, c'est le soir. Mais cette marche sur l'eau, c'est la nuit. La nuit, c'est quand on est seul. C'est quand la fête est finie. Parce que la multiplication des pains, il y avait beaucoup de foule. C'est comme quand on va... Malheureusement, je n'ai pas pu y être beaucoup, mais que quelques minutes. On passe un week-end à Antibes, on est tous ensemble, on se promène, on est content, on partage le repas, on fait le culte. Mais quand chacun rentre seul le soir, seul, ceux qui sont seuls ou à deux, c'est plus la même ambiance. Il y a toujours un moment, ah, c'était bien, mais là, surtout si c'est le dimanche soir et que le lendemain, c'est le lundi. Et bien là, c'est ce qui se passe. C'est la nuit, ils sont de nouveau seuls. Et donc, c'est là que la vérité des hommes et des femmes se révèle. Quand on est entouré, qu'il y a du bruit, qu'il y a du monde, ça peut aller. Mais quand on est seul, là, on est face à la réalité de notre condition humaine. À savoir qui on est, à qui l'on croit et ce que l'on veut. Donc, c'est dans ce moment de la journée qui est difficile qu'on va essayer de relire ces quatre épisodes sous l'angle de comment ça pourrait être un miracle pour notre épanouissement personnel. Un miracle spirituel et non pas un miracle physique. Luc, comme l'ensemble de son évangile, c'est un intérêt intellectuel. Il guérit ceux qui en ont besoin, il les informe du plan de Dieu, il distribue un tract, c'est une information, voilà ce que l'on veut faire, mais il n'y a pas de réaction. La preuve, c'est qu'on passe tout de suite à un autre chapitre. C'est tout à fait l'étape 1 de ce que nous étions. Nous n'étions pas encore nés à Jésus. Donc on voit ce miracle de la multiplication des pains, on l'entend, on en pense ce que l'on veut, on est informé, peut-être quelqu'un va nous dire, ça veut dire ça, mais pas de réaction. On passe à la page suivante. Étape 2, Marc. Là, on est dans le ressenti intérieur. On est dans l'émotion, c'est dit dans le texte. Ça y est, on s'est ouvert. Le miracle numéro 1 est là. Tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a ressenti crée une émotion en nous. Un besoin, une nécessité. On a besoin d'un berger. On a besoin d'un enseignement. Donc Jésus nous guide pour qu'on grandisse. Et à ce moment-là, que fait-on ? On va sur la barque. On ose aller sur la barque. La barque de la foi, évidemment. Après, on peut faire des symboles assez faciles, mais clairs. La barque de la foi. Et on est seul dans cette barque. Il n'est pas là. Mais on met le pas dessus, on donne un coup de rame et on avance. On est quelques-uns, tant mieux. Mais c'est la nuit. La nuit, c'est le monde dont on ne connaît rien. C'est la tempête, c'est le monde qui nous agresse. Ça aurait été tellement plus simple de rester sur le bord puis d'attendre peut-être le lendemain matin qu'il fasse beau et qu'il y ait le soleil, ou d'aller faire le tour à pied. On pouvait faire le tour du lac. Non, on y va, on monte dedans, le pas de la foi. C'est notre enfance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive ? Le miracle de Jésus qui marche sur l'eau. Mais c'est Genèse 1, 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Jésus qui marche, c'est l'Esprit de Dieu qui vient à nous et qui nous rejoint, qui dit « Vous avez fait ça, ce début de foi. Je suis là. Regardez-moi, n'ayez pas peur. Je suis l'Esprit qui va vous permettre d'avancer sur cette eau de la vie, sur cette tempête. » Évidemment, ils sont terrorisés. Et que fait Jésus ? Hop, miracle 2, il arrête la tempête. « Je suis là. Je suis là. » Vous ne pouvez pas tout comprendre, je suis là. Ils ne peuvent tellement pas tout comprendre qu'il est dit à la fin de Marc qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils étaient totalement sans réponse par rapport à ce qu'ils voyaient, parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle de la multiplication des pains. Là, nous sommes les enfants de la foi. Continuons. Matthieu, celui qui a mis de l'humanité. Alors là, nous allons plus loin avec Jésus, parce que cette foi que nous avons mis en place en acceptant d'aller dans la barque et d'avancer seul sur l'eau, eh bien, nous avons amené nos familles avec, puisque vous vous souvenez, les femmes et les enfants qui ont été enfin comptés. On n'est plus seul, on a peut-être témoigné, on a osé s'ouvrir, on a osé dire des choses, on a osé dire, tiens, il m'arrive un truc que je ne veux pas partager seul, ou que je ne peux plus partager seul, soit parce que vous faites partie de ma vie, donc vous êtes forcé de me suivre, ou bien parce que j'ai envie de vous le dire. Donc on est à nouveau dans la barque de la foi, sur la tempête du monde. On a toujours peur, on voit encore l'Esprit de Dieu qui arrive, qui veut nous accompagner, qui veut être avec nous. Et on a toujours peur, vous remarquerez que dans les quatre, enfin dans les trois passages, à chaque fois il est dit, ils étaient terrorisés. Et c'est normal qu'on soit terrorisé, c'est notre condition humaine. Même si on est chrétien et qu'on a notre certitude du salut, qui le soir, à minuit, quand il se réveille en pleine insomnie, n'est pas terrorisé un moment, une seconde? Et si c'était pas vrai? Et si je m'étais trompé? Ou si j'étais pas sauvé? Et si j'étais pas à la hauteur? Que celui qui n'a jamais été terrorisé une fois lève la main. Moi, je lève les deux mains. Pour dire que j'étais terrorisé. Hein, pas, je me suis mal exprimé. Pardon. Tu le supprimeras de... Et on accepte avec peur, mais on accepte l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Puisque Pierre va dire, c'est maintenant j'y vais. Je t'accepte. J'ai la trouille. Je ne comprends pas, mais c'est bon. Et maintenant, je veux y aller, moi. Mais c'est une étape supplémentaire. On est sorti de l'enfance, là. On devient des jeunes hommes et des jeunes femmes, des post-adolescents, un peu fous. On se lance parce qu'on veut expérimenter ça. Et on veut aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Et on se lance. Pas longtemps. Au bout de 3-4 pas, on tombe. On crie. On a peur. On tend la main. La première fois, il avait fait cesser la tempête. Là, il dit, attends, je te reprends. Viens. Je te laisse pas. Et il a cette phrase qui n'est pas un reproche, mais qui est plutôt... un début de compliment, homme de peu de foi. Mais ça veut dire que t'en as. Il n'a pas dit homme de foi nul, homme de peu de foi. T'en as un peu, c'est bien. T'as fait 3 pas. Moi, je trouve que c'est un compliment. Homme de peu de foi, mais ça veut dire qu'on en a. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer dans Matthieu à ce moment-là? Ils le font monter dans la barque, et là, ils sont plus rien. Ils sont plus à dire... ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Il est marqué, ils disent, tu es le Fils de Dieu. Donc le pas qu'on a fait, parce qu'on a accepté de monter dans la barque, on a écouté ce qu'on nous a dit, l'implication des pains, première chose bien, on n'est pas parti. C'est intéressant, mais bon. On est monté dans la barque. On a accepté de voir arriver Jésus, son esprit en nous, qui commence à nous diriger, alors qu'on est seul, on dit, ok. On n'a pas compris. Et là, troisième étape, on y va, on marche, on va faire le lien, on va rentrer dans cette espérance, dans cet esprit qu'il veut nous donner. Évidemment, on tombe, parce qu'on tombe tout le temps. Il nous rattrape. Homme de peu de foi, homme qui a donc un peu de foi. Et nous, une conclusion, mais donc tu es le Fils de Dieu. Même si moi, je ne suis pas à la hauteur, toi, tu es à la hauteur. Et ce n'est pas fini. C'est ça qui est extraordinaire. On va avec Jean maintenant. Jean qui nous a montré la multiplication des pains, qui prenait les choses en main. C'est lui qui distribue, c'est lui qui dit qu'est-ce que tu penses et eux, qu'est-ce qu'on va en faire ramasser. Parce que cette fois-ci, Jésus, il est rentré dans notre vie. On a accepté. Et quand Jésus rentre dans notre vie, évidemment, c'est nous qui allons chercher les petits pains, qui allons chercher les poissons, qui allons ramasser les restes. Mais c'est lui qui dit tu fais ça et tu fais ça. Et c'est pas une dictature, c'est l'ordre parfait qui permet que les choses se mettent en place merveilleusement. Donc c'est vraiment Jésus qui est dans notre vie et à qui on laisse toutes les clés de notre maison pour que les choses puissent fonctionner, se mettre en place telles qu'il l'a choisi dans son plan. Et on le retrouve dans le miracle donc, de la marche sur l'eau, puisque là, il y a de nouveau, évidemment... Jésus qui marche, la tempête qui est calmée, donc Pierre là, il l'enlève parce que pour lui ce n'est plus important. Ce qui est très important, c'est qu'il monte dans la barque et aussitôt la barque elle arrive à bon port. Ça y est, vous m'avez fait monter dans la barque en ayant compris qui je suis et en ayant accepté de venir avec moi, et ben moi je monte Et notre barque maintenant, c'est notre église. Et on va aller où vous voulez, partout, et rien ne va pouvoir être douloureux, enfin, douloureux de façon définitive pour nous tous. Et la barque, oui, elle se transplante. C'est, on abandonne à ce moment-là notre état mortel, on est dans la pleine maturité de notre foi. Alors, c'est vraiment l'étape de l'acceptation de la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Il est apparu aux disciples d'Emmaüs, pouf, il est parti. Il est apparu dans la chambre avec les autres disciples, hop, il est parti. Mais on est dans cette barque-là. On n'est plus dans l'ancienne alliance qui nous tenait. Et je sais que Paul aime bien tout ce qui est la nature, les lois de la nature, etc. Mais là, dans l'étape numéro 4, elles sont dépassées, ces lois-là. Et elles sont dépassées avec nous, parce qu'on est dans la barque, et il est le capitaine, qui nous permet, non pas par notre force à nous, mais par l'acceptation de la sienne et le don de cet amour qu'il nous donne et qu'on lui rend par la foi qu'on lui porte, d'aller dans une autre dimension. Alors j'ai une preuve de ça aussi, tellement ces textes sont bien faits. C'est qu'on en a là la confirmation par ce qui va suivre. J'ai parlé de ce miracle, c'est important de savoir ce qui se passait avant, pour comprendre ce qu'il y avait pendant, mais il faut aussi voir ce qui se passe après, pour mieux comprendre ce qui s'est passé pendant. Regardez, dans Luc, je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien après. Dans Marc et Matthieu, après cette nuit mouvementée, vous le lirez vous-même, le lendemain matin, tous les gens qui étaient autour, qui eux sont allés se coucher, qui ont été bien, bien nourris, reviennent, évidemment, ils reviennent par milliers, et ils demandent à être guéris, ils lui font une fête extraordinaire, ils ont tellement de bons débuts de foi qu'ils disent « touche simplement, permets que je touche simplement le bout de ton vêtement et je serai guéri ». Dans les deux textes, c'est dit, Marc et Matthieu. Donc, oui, la foi est là, mais c'est une foi encore de besoin physique. Fais-moi du bien, guéris-moi, est-ce que je te touche ? C'est déjà bien. Mais dans Jean, qu'est-ce qui se passe après cet épisode-là ? Eh bien, je vous lis la suite du texto de Daniel. Et je trouvais ça extraordinaire qu'il m'envoie ça. Il commence son texto sur... Je rappelle que la question, c'était « Qu'est-ce que tu retiendrais de ta prédication d'il y a 15 jours ?» Il a commencé tremplin au discours de Jésus sur le pain de vie. C'est marrant, il a sauté la marche sur l'eau, lui aussi. Mais c'est normal, parce que c'est pas important en soi, parce que c'est que quelque chose que l'on peut comprendre, nous, les convertis, à la limite. Parce qu'après, vous avez deux... Donc, il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Et ensuite, du verset 22 jusqu'au verset 59, c'est l'immense discours qui va tomber sans doute sur Emmanuel ou sur Daniel, je ne sais pas, sur le pain de vie. Mais ce discours-là, il n'a de compréhension, de valeur de compréhension, que parce qu'on a fait le chemin des quatre multiplications des pains avec les différentes étapes, et qu'on a suivi les quatre miracles de Jésus qui étaient cachés à tout le monde, ces miracles spirituels, qui permettent enfin de comprendre cette histoire de pain de vie. Pourquoi Luc n'en parle pas? Parce que c'était incompréhensible, ils n'avaient même pas fait l'étape de monter dans la barque. Pourquoi Matthieu et Marc n'en parlent pas? Parce qu'ils ont été dans la barque. Mais la première barque, c'est juste j'ai peur, je ne comprends rien, mais au moins je me tiens à toi, je vole vers toi. Et la deuxième fois, oui, tu es le fils de Dieu, etc., mais je suis encore de peu de foi, donc je ne peux pas. Mais dans le quatrième, c'est bon. Jésus, il a tout fait, multiplication des pains, il a dit tu fais ci, tu fais ça, c'est moi qui décide, c'est toi qui fais ça, allez, ramassez, faites le boulot. Et ensuite, je monte dans la barque, vous me voyez, vous n'avez pas peur, je peux monter et on y va, parce que vous êtes totalement avec moi, vous êtes des adultes dans la foi. Et maintenant, on peut, au nom de la résurrection, commencer vraiment à faire un bon boulot. Et donc, à ce moment-là, vous êtes capable d'entendre ces 30 versets sur le pain de vie. Donc, je conclurai en disant que, on parlait au début, est-ce que c'est un miracle inutile ? Mais c'est le miracle le plus utile qu'on ait sous les yeux. Mais c'est aussi peut-être le plus caché. Parce qu'il faut aller peut-être fouiller loin dans nous-mêmes, dans nos propres vies, dans nos expériences, pour pouvoir le percevoir à sa juste valeur. C'est vraiment le miracle caché, c'est pas le miracle inutile. Mais c'est le miracle qui doit nous donner la force et l'envie et le désir absolu d'aller plus loin avec Jésus pour pouvoir comprendre parfaitement ce qui va être expliqué les semaines prochaines sur ce qu'est vraiment Jésus, ce pain de vie. Et c'est pour ça que je pense aussi que c'est le miracle des convertis. J'avais commencé en disant que c'était un miracle qui nous posait des problèmes. Évidemment que les non-croyants se moquent de ce... parce qu'il est incompréhensible. Et vu de l'extérieur, il est même ridicule. Donc, si on doit parler des miracles de Jésus à quelques-uns qui veulent entendre quelque chose sur lui, un enseignement, évitons ce miracle-là. Parce que c'est le miracle de grade supérieur, en quelque sorte. Et je voudrais, si les musiciens étaient d'accord, je suis dans les temps, est-ce qu'il serait possible, sauf si vous ne pouvez pas, rechanter le fameux chant qu'on a chanté tout à l'heure, « Chaque jour ». Parce que si vous lisez les paroles, d'abord c'est un chant magnifique, « Chaque jour », on a l'impression qu'il parle de la barque tout le temps. « Je veux être avec toi, entouré, seul, je veux faire un pas avec toi ». Mais c'est absolument ça. Donc si on pouvait le reprendre, debout, en essayant de le chanter avec la perception de ce miracle spirituel que moi j'ai reçu en préparant cette prédication, et que j'espère n'y avoir fait d'erreur, si j'en ai fait, qu'on vienne me le dire gentiment, mais qu'on me le dise, et si j'en ai pas fait, que ça puisse vous faire du bien comme à moi ça m'a fait du bien. Donc si les musiciens pouvaient, si Madame la Présidente n'est pas contre...